Il est 20h30 à Paris et Libreville, 19h30 dans l'universel.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. À la une, au Gabon, résultat des recours engagés par les candidats recalés pour la prochaine présidentielle. Les candidats dont les dossiers avaient été rejetés ont été reçus à la Cour constitutionnelle ce vendredi. Fin du suspense. Au total, ils seront 8 à concourir au scrutin du 12 avril. La tension a monté d'un cran ce vendredi après-midi à Walikale-Centre, dans l'est de la République démocratique du Congo. Après une accalmie relative observée dans la matinée, la situation reste donc très tendue dans cette cité sous contrôle des rebelles de l'AFC M23 depuis jeudi. Et puis nous irons aussi au Soudan, où 2 ans après avoir été chassé, l'armée annonce avoir repris le contrôle du palais présidentiel dans le centre de Khartoum, la capitale. L'édifice était aux mains des forces de soutien rapide depuis le début du conflit en avril 2023. Fin du suspense donc pour les candidatures à l'élection présidentielle du 12 avril au Gabon. 4 personnalités dont le chef de la transition, le général Oligui Nguema, avaient déjà été validées par la commission d'organisation au sein du ministère de l'Intérieur et 19 autres recalés. Parmi ces candidats, plusieurs avaient déposé des recours devant la Cour constitutionnelle qui leur a donc notifié la décision. Aujourd'hui, François Mazet, ils seront finalement, je le disais, 8 sur la ligne de départ.
Oui, puisque la Cour a donné droit aux requêtes de Thierry Yvon, Michel Ngoma, Alain Simplice Bungwere, Zenaba Ninga Channing et Axel Stoffen Ibinga Ibinga. Ils n'avaient pas passé l'écueil de la CNOSER, la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum qui fait partie du ministère de l'Intérieur. Mais les pièces complémentaires apportées leur permettent d'être repêchées. Au contraire de Jean-Rémy Yama, l'ancien leader syndical entré en politique fin janvier avait pourtant ajouté à son dossier le certificat de naissance manquant, prouvant l'origine gabonaise de sa mère. Son dossier a tout de même été recalé. Un deux poids, deux mesures selon lui. « Ma candidature gêne, mais je ne sais pas pourquoi », a-t-il déclaré, sans pour le moment donner de mot d'ordre pour la suite. Les 4 candidats repêchés rejoignent les 4 déjà connus. L'ex-premier ministre Alain-Claude Bilibinzé, l'ex-porte-parole du PDG Stéphane Boussengui Iloko, le fiscaliste Jacques Lapensée et Singoné et le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour Thierry Yvon, Michel Ngoma et Axel Stoffen Ibinga Ibinga, ce sera une deuxième campagne après celle de 2023. Ce sera la première pour les 2 autres et Zenaba Ninga Channing sera la seule femme en compétition.
François Mazet, merci. La tension est montée d'un cran ce vendredi après-midi à Walikale-Centre dans l'est de la République démocratique du Congo. Après une accalmie relative observée dans la matinée, la situation reste très tendue sur place, dans cette cité sous contrôle des rebelles de l'AFC M23 depuis jeudi, où Walikale-Centre, chef-lieu du territoire du même nom, le plus vaste des 6 territoires du Nord Kivu, est situé à environ 400 km à l'est de Kisangani, le long de la route nationale numéro 3. Dans la cité, aucune activité n'a repris, la population reste terrée chez elle. Le récit de Patient Ligoti.
Walikale-Centre, ce soir, la situation restait tendue. Les combattants de l'FC M23 contrôlent toujours la cité, mais sur le terrain, l'armée congolaise tente de reprendre la main. Une contre-offensive a été lancée avec l'appui des moyens aériens. Selon des sources sécuritaires, au moins 2 frappes des drones ont été menées dans l'après-midi. Des cibles précises ont été visées et des dégâts ont été signalés, notamment près d'une base d'une organisation humanitaire. La veille déjà, des véhicules de Médecins Sans Frontières, utilisés notamment pour le transport des malades, avaient été touchés par des tirs croisés. Depuis, les activités humanitaires sont suspendues en attendant le retour à des conditions de sécurité suffisantes. Sur place, la population continue de fuir. Depuis hier, des déplacés arrivent à Lubutu, à plus de 200 km de Walikale. Ils viennent de la cité, mais aussi des Moubi, une localité voisine où des pillages ont été rapportés. Pour les humanitaires, la priorité aujourd'hui, c'est l'accès aux soins. Il faut garantir la continuité des services à l'hôpital de Walikale-Centre, mais aussi évaluer les besoins autour de la cité, notamment le long de l'axe Mpofu-Kibwa, plus au nord où des mouvements des populations ont été observés. Autre enjeu, évaluer les besoins des déplacés déjà présents à Lubutu.
Récit signé Patient Ligaudy. L'armée soudanaise annonce ce matin s'être emparée du palais présidentiel de Khartoum aux mains des forces de soutien rapide depuis le début du conflit en avril 2023. À l'aube du second anniversaire de cette guerre et après des semaines d'opérations pour reconquérir la capitale, il s'agit d'une victoire importante pour les forces gouvernementales. Toutefois, cette victoire ne marque pas pour autant la fin du conflit. C'est notamment ce que nous explique Roland Marchal, chercheur à Sciences Po, qui s'inquiète aussi des répercussions que cela pourrait entraîner dans la ville d'El-Fasher au Darfour.
Pour la bataille de Khartoum, c'est évidemment un acquis militaire important et un symbole. Mais pour l'ensemble de la crise au Soudan, on peut dire que oui, c'est un événement, mais c'est peut-être pas du tout la lumière au bout du tunnel, hein, de quelque manière que ce soit. Ce qui est sûr, c'est qu'une bonne partie des hommes et peut-être un peu de matériel va réussir à quitter Khartoum et se replier vers l'ouest du pays, et que là-bas, les bases de la structure et le nombre de combattants des forces de soutien rapide sont beaucoup plus importants et peuvent permettre des combats acharnés et peut-être une contre-offensive. C'est vrai qu'El-Fasher reste un point de fixation extrêmement important. Les forces de soutien rapide ont avancé autour de la ville et dans la ville, et très certainement la défaite à Khartoum va inciter ces troupes à redoubler d'efforts pour prendre le contrôle de l'ancienne capitale du Grand Darfour et qui est aujourd'hui la capitale du Nord Darfour.
Le chercheur Roland Marchal au micro de Nicolas Sûr. Et puis en Guinée, c'est Lou Dalain Diallo convoqué par la CRIEF en vue de son inculpation. C'est ce que confirme à RFI le procureur spécial de la Cour anticorruption, qui annonce donc l'inculpation prochaine du président de l'UFDG, principal parti d'opposition, pour corruption, détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux et enrichissement illicite dans l'affaire dite Air Guinée. L'ancienne compagnie aérienne a été vendue dans des conditions jugées suspectes à l'époque où Selou Dalain Diallo était ministre en charge de ce dossier. L'UFDG dénonce cette décision, je cite, purement politique, qui vise à écarter les adversaires du général Mamadi Doumbouya. La justice française refuse d'extrader en Algérie un ancien ministre de l'ère Bouteflika, Abdeslam Bouchouareb, qui était en charge de l'industrie et des mines entre 2014 et 2017. Son extradition pourrait avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle, estime la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et ce en raison de son état de santé et de son âge, 72 ans. En réaction, Alger déplore une absence de coopération de Paris. Explication, Pierre Firsion.
Si le gouvernement algérien dit prendre acte de la décision, il n'apprécie guère ce choix. Dans un communiqué signé du ministère des Affaires étrangères, Alger regrette, je cite, « l'absence totale de coopération du gouvernement français en matière d'entraide judiciaire » et annonce de possibles recours à d'autres voies de droit. Accusé de corruption en Algérie, Abdeslam Bouchouareb, ministre de l'Industrie et des Mines de 2014 à 2017, a été condamné par la justice algérienne à 5 peines d'emprisonnement de 20 ans chacune. Il est aujourd'hui visé dans un autre dossier d'infractions économiques et financières. En octobre 2023, une première demande d'extradition le visant est déposée par Alger. 5 autres suivront. Mais mercredi, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté les demandes d'Alger, motif l'extradition de l'ancien ministre qui réside depuis 2019 dans le sud-est de la France, pourrait avoir, je cite, des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison de son état de santé et de son âge 72 ans. Une décision qui clôt définitivement ce dossier.
En football, la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se poursuit. Aujourd'hui, le Nigeria a remporté sa première victoire contre le Rwanda, 2-0. À 21h, temps universel, la Guinée reçoit la Somalie en Côte d'Ivoire au stade DMP où le match est délocalisé. Seulement 4e du groupe G, avec 6 points, le Sili doit battre son adversaire.
Le temps est fini maintenant où on va donner des cartons à droite à gauche. Ça c'est révolu. Aujourd'hui les équipes nationales sont organisées, elles fonctionnent bien. La Somalie n'est pas une pointure africaine, on est d'accord avec ça. Maintenant il s'agit pour nous d'aborder le match dans le bon sens, de respecter l'adversaire et arriver à faire des différences. Bien sûr ils ont perdu les 4 matchs, mais jamais par plus de 2 buts d'écart. Ils ont marqué 3 fois sur 4 matchs. Donc ça veut dire que oui, c'est une équipe qui va défendre chèrement sa peau. Ils ont rien à perdre sur les matchs. Ils savent que la qualification, c'est pas leur objectif. Mais s'ils peuvent accrocher des points contre des équipes, pour eux, ce sera déjà un exploit. Donc on se doit de respecter l'adversaire.
Voilà, il ne faudra donc pas prendre de haut cet adversaire, comme l'a confié le sélectionneur de la Guinée, Michel Dussuyer, à Mo Lamine Sy Savané. Guinée-Somalie, c'est à 21h temps universel, et dans la foulée, le Niger affronte le Maroc. Il est 20h40 à Paris. Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale.